Vous écoutez Pop Média Radio, il est 18h.
La suite, c'est maintenant sur Pop Média Radio.
Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit une personnalité qui avance avec une vision 360 du cinéma, et c'est le cas de le dire puisqu'on est dans l'émission 360. Comédien, acteur à ses débuts, il a élargi son regard, ses compétences pour devenir aussi réalisateur et producteur, et aujourd'hui directeur d'un festival qui grandit d'édition en édition, un festival qui met en lumière les talents et les histoires à impact social, on va en parler. Originaire de Stain, il porte une dynamique culturelle forte à travers le festival Ciné-Lumière de Stain, un événement qui donne une place à des récits souvent peu visibles à l'écran et qui rassemble autour du cinéma. Mais derrière les projets, il y a aussi un parcours, il y a des convictions, des obstacles et une manière personnelle de voir le rôle de l'image aujourd'hui et la force dans le fait d'oser. Il vient nous parler de la 3e édition du festival Ciné-Lumière de Stain, bien sûr, qui aura lieu les 26 et 3 octobre prochains, mais surtout de ce qui l'anime, de son évolution et de la personne qu'il est devenu au fil du temps. On prend le temps aujourd'hui tranquillement de faire le tour de l'univers de Sadio Niakate dans 360. Bienvenue Sadio.
Merci Sabrina, merci de m'accueillir dans tes locaux.
Avec plaisir, merci d'avoir accepté.
Bah avec plaisir, c'est normal.
Alors Sadio, on va, on se connaît, on a déjà fait quelques interviews ensemble, on a parlé plusieurs fois de tes différents projets, Projo Night, le festival Ciné-Lumière, les cours du lendemain. On va en parler aujourd'hui aussi, on va rappeler un peu tout ce que tu fais. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de toi, de qui est réellement Sadio Niakate, peut-être du papa aussi.
Ben on peut, ouais.
On peut parler de chaussures à glands, de mocassins à glands. peut... voilà, vraiment cette interview, je la veux comme un peu des confidences sur l'homme que tu es aujourd'hui, que tu es devenu, ton parcours et surtout ce qui a façonné cet homme-là pour comprendre et aussi pour, pourquoi pas, inspirer. Est-ce que tu acceptes ?
J'accepte volontiers.
Super. Alors, est-ce que tu peux déjà, je l'ai dit, tu as grandi à Stain, mais nous parler un peu de ton enfance, de comment tu as grandi, est-ce que tu as des frères et sœurs, quel enfant tu étais ?
Ouais, bien sûr. Alors, moi j'ai grandi sur la... Enfin, je suis né à Pontoise.
9-5.
Ensuite, à l'âge... Ouais.
T'es un gars du 9-5 alors ?
À la base, ouais.
Ok.
Et à l'âge de 5 ans, j'ai déménagé sur Stain avec mes parents et mes frères. Et voilà, j'ai passé une bonne partie de ma vie là-bas jusqu'à l'âge adulte. Plus jeune, j'étais un enfant assez calme, assez timide. Voilà le genre d'enfant que j'étais.
Quel souvenir tu gardes de ces années-là ? Quand je dis enfant, ouais, c'est jusqu'à 15 ans, quoi. Quel souvenir tu gardes avant l'adolescence ?
J'en garde plutôt des bons souvenirs. Enfin, j'ai pas eu une enfance difficile. Ça se passait bien.
J'avais à l'école, t'étais quel type d'élève ?
À l'école, j'étais un élève assez discret. J'étais dans la moyenne au niveau des notes, mais c'est une fois arrivé au collège que les choses ont changé.
Ouais ? Pourquoi ? Les
rencontres ? Non, je pense que c'est plus une envie de vouloir s'affirmer, de vouloir être accepté par les autres. J'avais déjà mes copains, etc. Mais j'ai commencé à devenir un peu un mec rigolo.
Okay.
Mais je pense que c'était pour combler ma timidité de l'autre côté. Et à l'époque, je ne le savais pas. Maintenant que je suis adulte, je le sais. Donc ouais, j'étais un peu celui qui faisait des petites blagues et tout, qui ne se faisait pas forcément attraper.
Ok, parce que tu étais malin, parce que peut-être plus rusé, parce que tu étais
ouais,
le
c'est
gentil.
Ça. C'est ça.
Ouais.
J'étais le gentil avec une tête de gentil, donc ça passait.
C'est encore vrai aujourd'hui, on peut le
ouais,
dire.
Ouais, mais là, je suis gentil.
Ouais, c'est vrai, t'es gentil. C'est vrai. Ok, donc au collège t'arrives, c'est un petit peu plus turbulent, tes notes ça donne quoi ? Cata ou ?
Alors c'est soit la moyenne, soit un petit peu en dessous.
Ok, mais capacité inexploitée.
C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est peut-être vrai, hein, je saurais pas te le dire, mais c'est vrai que l'école ça a jamais été vraiment mon fort.
Mais est-ce que ça t'intéressait ?
Pas tant que ça, il y avait certaines matières dans lesquelles j'avais des meilleures notes. Si tu dois parler par exemple SVT, etc. Des trucs où tu découvres un peu plus de choses...
Concrètes ?
Ouais, un peu différentes. Tu sais, des mathématiques, du français, etc. Donc ça m'intéressait un peu plus ces trucs-là, physique, chimie...
Donc t'étais plutôt un scientifique ?
Pas un scientifique, mais on va dire
non,
que...
Non mais entre guillemets T'aimais les sciences, quoi.
Ouais.
T'as été jusqu'où à l'école?
J'étais jusqu'au bac.
Bac quoi?
Bac maintenance industrielle. Maintenance des équipements industriels.
Ok. Que t'as eu?
Que j'ai eu.
Ok.
Que j'ai repassé l'année d'après, que j'ai eu. Mais il y a un passif derrière, donc...
Et ce bac-là, tu l'as jamais finalement utilisé ou t'as cherché du travail dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'on peut faire comme taf avec ce bac?
On peut travailler dans tout ce qui est réparation d'avions, d'ascenseurs. En fait, c'est les grosses machines, quoi.
Ah ouais?
Ou alors, on peut aussi travailler dans tout ce qui est électricité. Tu peux être électricien aussi.
D'accord.
Parce que ça touche quand même à l'électrique.
Ben, un bon taf alors, un vrai...
Enfin, ouais, ouais. En fait, j'ai été dans cette matière-là à défaut parce que c'était pas ce que je voulais faire dans la vie.
Okay.
C'est juste qu'avant ça, je me suis retrouvé en menuiserie, malgré moi. Et j'ai fait une année...
Comment on se retrouve en menuiserie, malgré soi?
On se retrouve en menuiserie parce que...
Dis-nous les vraies histoires.
Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'arrivé en troisième, on fait nos vœux de lycée. Et on n'a pas de réponse. Donc il y a le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le deuxième tour où tu peux faire tes vœux. Et là, tu as un seul lycée qui te répond, qui s'appelle Bartholdi à Saint-Denis, dans la filiale menuiserie. Et là, tu pars à Bartholdi.
Mais tu te dis quoi, toi
À
ce moment-là?
À ce moment-là? Ah ouais, moi j'étais enfin... J'ai un lycée qui m'accepte, etc. J'étais super content.
Ok.
Je connaissais pas bien la matière, mais je me suis dit, on m'accepte quand même, donc je suis hyper content. Et
qu'est-ce qu'on fait en menuiserie alors?
On travaille avec le bois, on travaille sur le bois, on apprend à faire des pièces comme des débuts de chaises, ou on apprend à sculpter aussi un petit peu.
Et ça t'a pas plu? Ça t'a plu? Comment tu vis le truc, toi? C'est sur combien de temps?
J'ai fait une année. Mmh. Mais vu que je suis plutôt manuel, c'est un truc qui me plaisait bien, qui me plaisait quand même, de pratiquer ça à l'atelier. Mais je me voyais pas faire carrière dedans, quoi.
Donc, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas à cette époque? Tu te disais quoi niveau professionnel? Tu te voyais où? Qu'est-ce que tu te disais?
Bah, j'avais le foot à côté parce que je faisais du foot et j'avais un assez bon niveau. Donc je me suis dit, je tenterai quelque chose dans le foot. Et de l'autre côté, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer la menuiserie, donc je vais tenter quelque chose d'autre. Donc j'ai fait l'année d'après, j'ai demandé un changement.
Okay.
Et on m'a mis en maintenance des équipements industriels.
Et là encore, c'est pas toi qui as fait le choix finalement, on t'a plus orienté, quoi.
En fait, j'ai été là où il y avait de la place et là où c'était assez différent de ce que je faisais en menuiserie.
Okay.
Et là, j'arrive dans une classe
que
turbulente.
Que des bonhommes.
Turbulente. Bah, en fait,
il y avait
un contraste parce que en menuiserie, j'avais une classe où il y avait que des gars.
Okay.
Mais c'était une classe, c'était assez calme. Ouais, c'était assez calme. Enfin, il y avait deux trois éléments turbulents, mais qui n'ont pas fait l'année. Et là, j'arrive en maintenance et c'est, je crois, 90% de la classe qui est
tordu.
Ouais, qui sort de prison. Non, je rigole.
Okay.
Non, mais j'avais une classe assez difficile. Et donc,
tu fais combien de temps?
Je vais jusqu'au bac.
Ok.
Je fais jusqu'au bac. La classe change au fur et à mesure des années parce qu'il y en a qui se font virer. Il y a des nouveaux élèves qui arrivent. Je me fais plein d'amis, dont certains avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui.
Ok.
Et voilà, je vais jusqu'au bac et arrivé au bac, bah, je me dis que j'ai pas forcément besoin du bac, donc je passe pas les épreuves. Je le dis ouvertement à mes professeurs, j'ai pas envie de passer le bac et tout. Sauf que l'été arrive et je réfléchis et je me dis, mais en fait, c'est peut-être le minimum de ce que je devrais avoir comme bagage. Du coup, je le retente l'année prochaine et je l'ai avec succès.
Super. Donc là, tu dis au moins t'as un diplôme.
Ouais. Après, on se cherche, qu'est-ce qu'on a envie de faire, le foot, le cinéma.
Le cinéma, c'est quand même arrivé très tôt alors dans ta vie?
Oui, quand même, j'étais déjà au lycée quand c'est arrivé, j'étais en première, je crois, première ou terminale.
Assez tôt.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a aiguillé vers le cinéma?
C'est une rencontre, la rencontre avec mon agent. Et ensuite, tout s'est un peu enchaîné.
Comment tu l'as rencontré, ton agent, alors?
Je le rencontre via les réseaux sociaux, où il m'envoie un message et puis on échange. et puis on fait une rencontre physique, il m'explique ce qu'il fait dans le métier du, dans le milieu du cinéma.
Mais pourquoi dans les réseaux, tu t'avais déjà fait des choses toi sur les réseaux ou...
Non, en fait j'étais modèle photo, donc okay. J'avais un book et c'est suite à ça qu'il m'a contacté. Rien à voir avec le cinéma, mais il sentait quelque chose chez moi, donc on s'est rencontrés, il m'a expliqué en quoi consistait son métier d'agent. Et voilà, il m'a fait passer des essais ensuite, et par la suite, bah, on a collaboré ensemble jusqu'à l'heure d'aujourd'hui.
C'est toujours ton agent ?
C'est toujours mon agent, et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et c'est
il t'a repéré qui... en quelque sorte.
Ouais, et c'est quelqu'un qui est dans l'équipe du festival également.
Tu veux donner son nom ou pas ? Parce que j'ai l'impression que tu veux le garder pour toi.
Ouais, je préfère le garder pour moi. Je l'ai déjà dit en vrai. Hein.
Oui. Ok. Ouais. Donc, se passe tout ça. Et c'est à quel moment alors que tu te dis, bah, écoute, plutôt le cinéma que la menuiserie ou qu'autre chose, hein, qu'un autre métier ?
Bah, en vrai, la question, c'est jamais posée entre le cinéma et un autre métier. Enfin, footballeur, la question s'est posée, mais...
Non mais footballeur pour de vrai ou...
Ah non, pour de vrai. Pour de vrai, je comptais vraiment... j'avais joué à Sannois.
Ok.
En semi-pro. Mais j'ai pas joué longtemps. Mais je voulais aller à l'étranger. Je voulais viser l'étranger avec un pote. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je pars à l'étranger pour tenter ma chance ou alors est-ce que je reste et je tente quelque chose dans le cinéma ? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un choix.
Donc,
j'ai choisi de...
Ouais, un choix...
De rester. Et voilà.
Et tu regrettes pas ?
Non, je regrette pas parce que j'ai bien réfléchi avant. Et non.
Ok. Une fois que tu fais ce choix-là de rester, bien évidemment, bah, il faut quand même travailler à côté, Sadio. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que tu te dis, je me lance corps et âme à la recherche de rôles, à la recherche de contacts aussi dans le cinéma ?
Le truc, c'était que l'année du bac... Je travaillais à côté parce qu'il fallait faire rentrer quand même un peu d'argent et en même temps j'enchaînais les castings de l'autre côté. Donc j'ai travaillé, en fait c'était suite à un stage en maintenance que j'avais fait à Cora de Garges les Gonesses.
Ouais.
À l'époque c'était un Cora. Et j'ai fait un stage et j'en ai profité pour demander un emploi à mi-temps et j'ai été pris. Donc j'ai fait un peu de caisse, un peu de rangement de rayons, un peu de tout quoi.
Et alors ça t'a conforté dans le fait que tu voulais pas bosser là-dedans et que tu voulais faire du cinéma ?
Bah ça s'est super bien passé parce qu'il y avait d'autres jeunes qui avaient le même âge que moi. Donc même parfois même pendant qu'on était en caisse, on se tapait des barres. Franchement,
c'était
on
des
passait
bons
des bons moments. Ouais.
C'était des bons souvenirs. À quel moment t'as su que c'était sérieux ?
Je dirais que c'est lorsque j'avais décroché un rôle dans un long métrage, un second rôle. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu l'envers du décor, etc., et que par la suite, j'ai enchaîné avec un autre tournage, et que ça s'est enchaîné trois fois d'affilée, je me suis dit, ok, là, il y a moyen de faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Après, je manquais aussi de maturité à l'époque, mais...
Oui, parce que t'as commencé très jeune. T'as commencé très jeune, quand même.
Pas tant que ça, 20 ans.
Avec...
20 ans, c'est très jeune.
Bah, je trouve. Pour commencer dans le cinéma, dans l'acting, ouais, je trouve que 20 ans, c'est jeune.
Ouais, ouais. Mais
Non, je sais pas.
Bah moi je trouve que c'est un âge normal. Enfin, c'est pas si jeune que ça, il y en a qui commencent à 14.
Et alors aujourd'hui, t'en es où ? Parce que j'ai dit que c'était un peu tes débuts.
Ouais.
Là t'es moins face caméra.
Ouais, je suis moins présent à l'écran parce que j'ai fait c'est un choix aussi. Et en même temps, je fais tellement de choses à côté que j'ai pas forcément le temps de me consacrer à ma carrière de comédien.
Tu refuses pas de casting quand même ?
Non.
Tu refuses ?
Non, j'en ai refusé quelques-uns, mais c'était plus par souci de timing, de temps.
Ouais,
et puis j'ai aussi envie d'autre chose.
Ok, c'est un choix assumé.
Ouais, c'est un choix assumé, ouais.
Tu t'es dit, ça va évoluer différemment, on va prendre le taureau par les cornes aussi ?
À un moment donné, je me suis dit ça, quand ça marchait plus trop pour moi, et que j'ai passé plein de castings et que j'avais pas de rôle.
De retour positif, c'est frustrant ?
C'est frustrant, et tu te poses plein de questions. Tu dis, qu'est-ce qui va passer chez moi ? Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je change ? Est-ce qu'il faut que je change ma manière de jouer, etc. Donc, ouais. Plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Imagine que ça fonctionne pas jusqu'à, je sais pas moi, pendant 20 ans. Donc il y a plein de questions qui passent par là et en fait tu te rends compte que t'es pas le seul et qu'il y a beaucoup beaucoup de comédiens dont c'est la réalité aussi.
Ouais, c'est un peu votre moment creux quand t'as des refus. Souvent ça se joue à rien. Et tu t'es dit quoi alors? Je prends mon avenir en main et...
Bah après en fait j'ai eu l'envie de raconter des histoires. Je me suis dit je vais le faire moi-même. Parce que si en fait avant ça j'avais écrit un long métrage et j'avais essayé de trouver une prod. J'en ai fait plein, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour essayer de trouver une boîte de prod, j'en ai pas trouvé.
Et pourquoi? Comment t'expliques ça?
Bah déjà j'arrive avec un long métrage, personne me connaît, le scénario il fait un pavé, les boîtes de prod elles en reçoivent je sais pas combien. Donc bon.
Tu l'as encore ce...
Ouais, je l'ai dans un fichier verrouillé.
T'as plusieurs versions, retravaillées, non? T'as dû revenir dessus du coup depuis toutes ces années?
Ouais, je suis revenu dessus peut-être, je sais pas, je dirais plus de 10 fois. Mais c'est un long métrage, donc et moi j'avais pas d'expérience d'écriture. Donc j'étais autodidacte, j'apprenais sur le tas. Et j'avais des retours de professionnels du milieu aussi qui me faisaient des retours.
Donc il a été lu?
Oui, il a été lu.
Plutôt positif quand même.
Par des réalisateurs et des scénaristes, pas par des producteurs.
D'accord.
Mais ça m'a servi de retour. Et ça m'a servi aussi par la suite pour mieux écrire.
Qu'est-ce que tu dis en fait finalement? Tu cherches ta solution à toi?
Bah après je prends goût à ce truc de raconter des histoires, d'écrire. Donc je me dis je vais faire des histoires un peu plus courtes. Donc là je commence à écrire des récits qui font 3 à 5 minutes. Et j'essaie de rassembler une équipe. Le premier court-métrage que je fais, c'était une web-série que je voulais mettre sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Et je l'écris, ensuite je la co-écris avec un pote comédien. Et je rassemble une équipe de cinéastes, scénaristes, réals, chef-op, etc.
Assez facilement, ils te suivent assez facilement ou pas?
Bah, je commence à me pointer devant les écoles de ciné. Donc je commence à parler à tout le monde.
T'es un opportuniste de ouf toi en fait.
Bah j'apprends sur le tas, je me débrouille. Hein.
C'est une qualité.
Ouais, je me jette et puis je me dis on verra ce que ça donne. Mais ouais, ça et sert d'expérience. Ils me suivent. Je leur dis écoutez, moi je cherche des potes, des mecs avec qui on peut bosser. On devient un peu une famille.
Tu leur dis qu'il n'y a pas d'oseille à la clé?
Je leur dis clairement, il n'y a pas d'oseille. On s'aide dans nos projets mutuellement. Donc je les aide dans un projet à eux. Ensuite, ils me la mettent à l'envers.
tu les appelles, ils répondent plus.
Ah, finalement, on n'est plus très chaud pour ton projet. Ça fait partie du jeu, en vrai. Mais ouais, je l'ai eu un peu mauvaise, mais.
Donc, tu les as aidés.
Ouais.
D'abord.
Ouais.
Bah, c'est de ta faute. Hein. Fallait attendre de finir ton projet et après, tu les aides.
Ouais, bon.
Ça apprend comme ça.
C'est comme ça qu'on apprend.
T'es
vrai.
Gentil. C'est pour ça.
Je sais pas.
Tu l'as dit tout à l'heure que t'étais gentil.
Ouais. Est-ce que c'est de la gentillesse ou est-ce que c'est bah j'y porte pas d'attention et je me dis.
Tu calcules pas quoi.
Ouais.
Pas calculé.
Ouais, je vais pas rester focalisé là-dessus sur ma colère ou quoi. On passe à autre chose et on avance.
Et donc t'arrives à bout de ton projet, t'arrives à tourner des choses, à faire des choses.
Ouais. On a tourné cet épisode de la web série. Finalement, on l'a pas sorti. Il y a eu des petits soucis techniques et tout et on se voyait pas le sortir. Et par la
Parce
suite,
que t'étais pas satisfait du rendu?
Ouais, tous les deux. Mon pote comédien et moi, on n'était pas satisfait du rendu.
Ça parlait de quoi?
C'était un peu un remake du film 4 frères.
Ok.
C'est avec Mark Wahlberg, ouais. Tyrese et tout.
Ouais.
Sauf que là, on était 3.
Trois et demi, trois frères et demi.
Trois, on n'a pas trouvé de quatrième comédien.
Ok, il nous a lâché.
Non, c'est juste qu'on voulait à 3, c'est tout.
Ok.
Et non, par la suite, je me dis, bon, bah écoute, je vais continuer tout seul. Je commence à écrire d'autres petits récits. Et là, je me dis, j'ai envie de parler de trucs qui me touchent.
C'est là que commencent à germer un peu les histoires à impact, les histoires à sujets sociaux.
Ouais.
Où tu te dis, je veux défendre des choses...
Bah, des choses qui doivent être un peu plus diffusées. On doit en parler un peu plus. Donc ouais, je commence à écrire des récits. Globalement un peu triste, plutôt. D'ailleurs, on me l'a reproché, ça.
Ouais, que t'étais un peu...
Ma femme, elle me l'a reproché. Parce que à chaque fois que j'écrivais un truc, il y avait quelqu'un qui mourait dedans. Elle me disait, non, mais t'es malade ou quoi?
Toujours un mort.
Toujours un mort. Non, presque.
Mais pourquoi
presque. Je sais pas, en fait, je crois que j'étais mélancolique.
Ok, c'était le.
Donc, dans mon écriture, j'avais une écriture assez triste, assez. Où on réfléchit quand même sur les choses. Mais j'avais toujours cette tendance à aller quand même vers des trucs tristes et tout. Je sais pas comment l'expliquer.
Et aujourd'hui, ça.
Non, ça va mieux aujourd'hui. J'ai écrit une comédie, je me suis tapé des barres.
Okay.
J'écris de tout.
Ouais, en fait, c'est dans le mood, c'est le mood dans lequel t'es à l'instant où, où tu crées, quoi. T'étais triste.
Non, c'est ça, c'est ça qui est bizarre. J'étais pas triste, mais j'aimais ce...
Ça t'inspirait.
Ouais, ouais. Okay. Ça m'inspirait beaucoup.
Et donc, t'as sorti plusieurs petits courts-métrages, plutôt satisfaisants.
Sur l'aspect technique, moins, mais sur l'aspect impact et... impact que ce soit en termes de stats et aussi de comment dire impact auprès des gens, j'étais très satisfait. Ouais.
Et toi, dans ta tête, c'était pour aller où alors? C'était pour faire quoi? Juste faire vivre tes œuvres ou t'avais déjà une idée derrière la tête?
Pas du tout. Moi, je voulais juste parler de trucs qui me touchaient et essayer de les diffuser au maximum, au plus grand nombre de personnes. J'avais pas de plan en tête et j'allais un peu à l'instinct et naturellement.
T'as fait des rencontres durant toutes ces périodes de création?
J'ai fait de très très belles rencontres. J'ai rencontré des associations avec qui je bosse encore aujourd'hui. Et au-delà de bosser ensemble, avec qui humainement,
ça match.
Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes.
On a l'impression quand même qu'au fil des années, t'as pris un peu de hauteur aussi par rapport à tout ça. T'as eu... Le courage de créer des événements quand même, des événements qui ont réuni beaucoup de personnes, des événements qui ont réuni des personnes dans le milieu du cinéma, des personnes connues, moins connues.
C'est ça. Enfin, j'ai commencé par une première soirée de projection et là, j'avais pas d'inspi.
Il n'y avait pas de nom? C'était juste projection?
Non, ça s'appelait soirée de projection.
Ah ok. Ah ouais, pas d'inspi. C'est bien ce que je dis.
Pas d'inspi, vraiment là, soirée de projection.
En même temps, voilà, ça dit ce que c'est.
Ouais, c'est
voilà,
clair, tu sais pourquoi tu viens.
Ok.
Et y a 5 courts-métrages qui sont projetés, et de réalisateurs et réalisatrices, dont certains que j'avais approchés parce que j'avais aimé leur travail, et aussi par rapport à les sujets qu'ils traitaient, etc.
Ils ont dit oui tout de suite?
Ouais, ils ont été d'accord, ils ont dit oui tout de suite. Et du coup, on a organisé la diffusion dans un théâtre, le studio Théâtre de Stein. Et voilà, on a projeté 3 courts-métrages et les 2 autres ont planté.
Ça partait pas?
Ça partait pas, ça voulait pas se lancer. Et là, j'étais comme un dingue parce que y a 2 réalisatrices, du coup, qui sont là et qui voient leur film qui passe pas. Et moi, comment j'explique ça? J'essaye de rattraper le truc derrière et tout, et ça prend pas. Parce que le régisseur avait eu des soucis un peu... des soucis familiaux, donc il pouvait pas rester, malheureusement. Ah, et c'était très grave, donc...
D'accord.
Et
Elles ont compris un peu...
Il y en a une des deux qui m'en a pas voulu du tout.
Et l'autre, t'as blacklist.
Et l'autre, je pense qu'elle m'en a voulu longtemps, je pense.
Ouais. Après, c'est des choses qui arrivent, hein. Surtout dans les débuts...
Ouais, malheureusement. Après,
donc ça t'a pas refroidi, toi, dans continuer à créer des événements, des choses comme ça, parce que...
En fait, la raison pour laquelle j'ai rebondi directement, c'est que je leur ai fait la promesse de me rattraper, de recréer cette soirée projection et de me rattraper, de faire en sorte de valoriser leur travail du mieux possible que... Enfin, voilà.
Que tu pouvais, ouais.
Ouais, donc c'est ce que j'ai fait et c'est de là où j'ai retravaillé mon sujet et j'ai commencé à mettre en place Projonight.
Mais après, on peut se dire que se tromper, c'est quand même bien. Parce
bien
que
sûr.
Ça te permet d'être mieux préparé.
Clairement, ça m'a permis de mieux me préparer et ça m'a servi de petite expérience aussi. Donc, j'avais déjà cette petite expérience et il fallait juste que j'améliore les choses, que je retravaille un peu le tout et qu'on avance. Donc, on était dans une plus grande salle après. Et soirée projection, c'est devenu Projonight.
Déjà, t'avais plus d'inspi.
Différence.
Ouais. En anglais, ça claque mieux, non?
J'avais pas trop d'inspi aussi là.
J'avoue, Projonight, ouais, mais ça claque mieux en anglais, toujours. Ok, donc Projonight arrive, pareil, en fait c'est le même format avec des projections, un échange aussi avec
les réalisateurs et réalisatrices et le public.
Ouais.
Et voilà, le public participe, pose des questions, Et j'avais aussi mis en place une première partie musicale.
Oui, c'est vrai.
Première partie musicale. Et ensuite, voilà, on enchaîne.
Ouais. Et alors, pourquoi Projonight est passé festival Ciné-Lumière ?
Bah, en fait, première soirée de Projonight, je commence ensuite à préparer la deuxième. Je me dis, waouh, ça a bien marché, on peut faire encore mieux, on peut encore pousser. Et là, pendant que je prépare la deuxième édition de Projonight, je me dis, mais après, je fais quoi ? Donc là, je commence quand même à penser à l'après. Et je me dis, bah, festival, en fait. Et c'est aussi une personne de Stein qui m'a un peu soufflé l'idée. Parce qu'on discutait, elle me dit, il n'y a jamais eu de festival ici et tout. Elle me dit, tu devrais en faire un. Et je réfléchis, je me dis, mais j'ai pas les armes pour faire un festival.
Ouais,
comment je mets ça en place ? Je sais pas comment ça se passe, comment on crée ça. Mais je commence quand même à cogiter sur ça. Et
elle a planté la graine.
Elle a planté la graine, exactement. Et là, je commence à travailler une affiche et tout. Je me dis, à la fin de Projonage, je la balance. Et j'annonce à tout le monde que je fais un festival, même si j'ai rien commencé.
Avant même d'avoir les étapes et tout. Moi, ouais. Je me rappelle, tu l'avais projeté sur grand écran.
Ouais, d'ailleurs il y a une vidéo qui retrace ça et on te voit en premier plan.
C'est vrai. Faut que j'aille voir.
Et ouais, bah du coup à la fin on projette sur grand écran. Et là je vois le retour des gens et tout. Les gens étaient vachement hypés. Et moi je me suis dit ok.
Et t'avais gardé un peu le mystère aussi. Tu sais, t'as dit, voilà, il y a un truc qui se prépare, voilà, c'est ça.
Il y a une annonce à la fin.
C'est ça.
Et tout le monde se demandait ce que c'était. Et voilà, on a fait l'annonce. Du coup, on était dans la merde parce que...
Ouais, là,
maintenant qu'on
obligé.
Ouais, maintenant que ça a été annoncé, on y va direct. Et puis, Projonight m'a aussi permis de me faire un peu la main.
D'avoir des contacts aussi.
Des contacts, de rassembler une équipe autour de moi.
De te valider aussi, parce que maintenant, je pense que dans le milieu, t'es... En tout cas... Par chez nous, t'es un petit peu quand même connu pour ça, maintenant.
Oui, oui, c'est vrai que bah, les gens savent maintenant que j'ai fait des événements projection, qu'il y a le festival et qu'il y a d'autres choses que je fais à côté.
Ça t'a ouvert des portes ou pas ?
Le festival ou Projonight ?
Les deux.
Ça m'a permis de rencontrer des gens que je pense, en tant que comédien, j'aurais jamais rencontré. Donc là, c'est une étape, je dirais, ouais... plus importante.
Mais tu vois, on parle toujours, on en parlait avec un invité juste avant, on parle toujours un peu du plafond de verre, on parle de sentiment d'être pas à sa place ou pas légitime en tout cas. Mais dans ton parcours, moi j'ai l'impression que tu te posais même pas cette question-là, de savoir est-ce que t'es légitime d'y aller, est-ce que t'es légitime de créer ces types d'événements.
Si, ça m'a traversé l'esprit plein de fois. Et il y a aussi ce syndrome de l'imposteur qui est encore présent parfois, hein, malgré les choses que j'ai pu faire. Et en fait, c'est factuel, ça a été fait. Mais j'ai quand même ce truc de... Est-ce que je suis légitime de faire ça ?
Mais quand est-ce qu'on va arrêter de se demander ça, sérieux ?
Je sais pas,
c'est quoi qui fait ça ?
Je sais pas. Je pense que depuis que je suis petit, je suis comme ça. Et je sais pas, est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est...
Ouais, faudrait qu'on travaille dessus. Donc là, qu'est-ce qui se passe bientôt ? C'est la troisième déjà édition, ouais, de ce festival. Il grandit d'année en année. Tu ramènes de plus en plus de personnes quand même high level, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce festival ? Je sais que vous avez regardé beaucoup de
ouais,
films. D'ailleurs, tes yeux...
Et c'est pas fini. Hein.
C'est vrai ? T'as
ouais,
pas fini de regarder ?
Non, c'est pas fini.
Vous en avez eu combien ?
On en a eu plusieurs centaines.
Ok.
Pas dire le nombre exact, mais
okay,
on en a
beaucoup.
Eu plusieurs centaines, ouais. Et c'est pas fini parce qu'il y a une autre section qu'on ouvre pour cette troisième édition, qui est une section internationale.
Ouais, vous cherchez aussi.
Et non, mais parce qu'il y a aussi plein de belles choses qui se font à l'étranger et faut qu'on voit aussi. Faut qu'on voit aussi ce qui se fait ailleurs. Et...
Donc là, à Stein, dans le 93. À l'espace Paul-Éluard.
Ouais.
Il va y avoir la projection de films, donc de toute la France.
Ah oui, c'est national.
Voilà,
c'est national.
De toute la France, mais ça va pouvoir aussi diffuser des films d'ailleurs.
C'est ça.
Vous avez reçu déjà
Non, on n'a pas encore envoyé l'appel à films.
Ok.
Mais oui, ça se trouve, on aura des réalisateurs brésiliens.
Et le thème alors de cette année, c'est quoi ? C'était un peu plus cadré parce qu'il me semble que les années précédentes c'était plutôt libre.
C'était très ouvert. Ouais. C'était très ouvert. Aujourd'hui, ça l'est encore.
Ok.
Ça l'est. C'est encore plus ouvert, mais
quand même cadré.
Oui, un peu plus. Chaque année, on essaye de s'améliorer d'année en année. Après, on a les critères qui changent pas entre 5 et 20 minutes. Fiction. Bah là, du coup, c'est plus forcément que national. Enfin, si, il y a la section nationale et aussi la section internationale.
Est-ce qu'on connaît un peu déjà les membres du jury? Est-ce que tu veux nous parler aussi de l'équipe avec qui t'es, parce que t'es pas tout seul à regarder tous les films?
Non, bien sûr. On est 8 dans le comité de sélection et avec des métiers différents. Ça va de journaliste, comédien, photographe plateau. On a vraiment des métiers différents. Mmh. Okay.
Et le jury, est-ce que...
On n'a pas encore communiqué là-dessus.
Donc j'aurais pas exclu alors.
Bah non, tant qu'on n'a pas le jury complet.
Ah, ouais. Ok, c'est pas validé. Très bien.
Non, c'est pas encore validé.
Donc ça se passera, je l'ai dit, le 26 et le 3 octobre prochain.
C'est ça.
On peut venir prendre des places sur place. On peut venir directement sur place ou vaut mieux réserver?
Vaut mieux réserver.
Ok, donc il y a un site internet. Nous on remettra tout, hein, les infos sur le site internet. C'est déjà d'ailleurs, il y a déjà un article dessus avec tous les liens.
Ah bon. Bah...
Tu vois, tout est déjà fait.
Il y a juste un truc que j'ai pas dit, dont j'ai pas parlé. Il y a aussi une grosse nouveauté pour cette 3e édition, c'est qu'on a un partenariat avec une boîte de production. Et le prix principal de cette édition, c'est un accompagnement en développement de long métrage.
C'est incroyable.
Ouais, c'est ouf.
D'accord. Trop ok. Jeu. Donc c'est non, mais ça, voilà, c'est ce que je disais. En fait, chaque année, le festival il prend de l'ampleur quand même.
Ouais, il y a toujours. C'est vrai qu'il y a toujours une sacrée différence entre l'édition sur laquelle on est et celle d'avant. Et pour la 4e, on a aussi des belles surprises qui vont arriver.
Tu penses déjà à...
Ah, on a déjà travaillé un peu le sujet.
Ok. Donc je sais qu'aussi, il y a des masterclass qui sont organisées. Je ne sais pas si cette année, il va y en avoir...
Bien sûr.
Ou pas.
Cette année, il y aura une table ronde et également une masterclass.
Avec une personne connue, là ou plus...
La masterclass sera avec une comédienne connue, ouais.
Ok. Plutôt bien.
Déjà, j'ai dit c'est une comédienne.
Ouais, déjà, on va chercher une comédienne, on va aller regarder tout ça. Tu donnes aussi des cours.
Oui, alors, je donne des cours à des jeunes en association, mais pas dans le cadre des cours du lendemain.
Ah,
dans les cours
vas-y.
Du lendemain, c'est enfin, je suis à la direction, mais okay. C'est un professeur diplômé du CNSAD qui donne les cours.
Ok, donc il y a les cours du lendemain qui c'est permettent ça. De bénéficier de cours de théâtre. Ça se passe aussi à Stein ?
Ça se passe sur Stein, oui.
Ok, donc avec une inscription et c'est à l'année.
À l'année,
vous
oui.
Vous suivez un groupe, on peut d'ailleurs aller sur le compte Instagram. Hein.
Oui, il y a quelques photos, il y a quelques trucs qui retracent un peu comment ça se passe.
Et toi, à titre personnel, dans le cadre, tu l'as dit, d'association, tu interviens dans les associations auprès de différents publics.
Oui.
Donc t'es quand même très impliqué sur le fait de faire vivre l'art cinématographique au sens large dans ton environnement.
Oui, après pas que, parce que je bosse aussi dans d'autres villes, mais c'est vrai que bah, par exemple ne serait-ce que la pratique du théâtre, je trouve que c'est hyper important pour des jeunes. Et ça peut que leur faire du bien déjà et acquérir aussi des compétences et des... Enfin, que du plus. Je trouve que c'est que du plus le théâtre.
Non, mais de toute façon, je pense que... Enfin, on en a déjà parlé, mais moi je pense que ça devrait être même dispensé à l'école. Hein.
Ouais.
Dispensé à l'école pour être moins timide, pour pouvoir s'exprimer.
Bah moi je sais que personnellement ça m'aurait aidé.
Ouais, bah oui.
Et là, après j'ai été le chercher moi-même, mais oui. Par exemple quand j'ai commencé le cinéma, J'aurais peut-être pas accepté parce que je me serais dit, mais je vais dire quoi ?
Ouais, ouais, non mais ouais, ça y est,
t'es à l'aise. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et même le fait de prendre la parole devant un public et tout, de le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça aide aussi.
Est-ce que, Sadio, tu peux nous rappeler un peu où on peut te retrouver, comment on peut suivre aussi ton actu, l'actu du festival ? Voilà, je suppose que vous allez balancer très prochainement des infos. Ça se passe où ?
Alors, le festival en lui-même se passe sur la ville de Stein, à l'espace Paul Éluard, et on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux via la page Instagram @cinelumierefest. Mmh. Et voilà, là il y aura toutes les infos prochainement, les membres du jury, le programme, Un peu tout ce qu'il y a à savoir.
Il y a le site internet aussi.
Il
y a des infos.
Et le site, c'est Festival Ciné Lumière. Mais ouais, il y a toutes les infos. Il y a aussi les, ça retrace aussi les anciennes.
Éditions et la genèse un peu du festival en lui-même.
C'est ça.
Super. Est-ce que tu as suivi un peu l'actualité, les élections T'as voté ou pas d'abord?
Bien sûr.
Ok, super.
Bien sûr.
T'as suivi un peu les élections?
J'étais au cœur de ça même.
Et alors, comment t'as vécu le truc? Est-ce que plutôt positif?
C'était la guerre. Ouais, c'était la guerre. Après tout ce qui est politique et tout, moi je...
Ouais, tu t'en fous un petit peu.
Non, je m'en fous pas du tout. Mais c'est juste que c'est pas mon domaine. Donc je rentre...
Bon, t'as voté déjà.
J'ai voté.
Ça, c'est important. Ok, super. Écoute, Sadio, merci beaucoup d'être venu au micro de 360.
Merci à toi, Sabrina, pour l'invitation.
On va suivre de près l'avancée du festival. On sera là. Et puis à très vite.
Bah, très vite.
Nouvelle émission.
Mais parce que déjà, vous êtes partenaire du festival.
Tout à fait.
Donc, à très vite.
À très vite. Merci, Sadio.
De rien.
Détendez-vous, vous écoutez Pop Média Radio.